Amen.
Amen.
Be not conformed to this world.
No.
But be ye transformed.
Amen.
By the renewing of your mind.
Amen.
Ye may prove what is that good.
Amen.
Acceptable.
Amen.
That is the will of God.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons ce soir avec le message 7. Je m'excuse à cause du temps. On ne peut pas couvrir tous les messages. Donc nous avons besoin de sauter quelques messages. Par exemple, le message 5 et 6. Pour choisir les messages les plus pertinents dans le temps qui nous reste. Donc ce soir et demain matin et demain soir. Mais il y a d'autres messages qui abordent le livre d'Esdras. Mais malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les traiter. Donc ce sera pour une autre fois. Ou si vous êtes comme Esdras, vous êtes scribe et vous voulez étudier, vous voulez poursuivre, vous voulez aller un peu plus loin. Tous les messages sont avec les frères. Donc vous pouvez les lire, les étudier, les digérer. Amen. Et aussi peut-être les pratiquer. Voilà notre fardeau.
Ouais.
Ce n'est pas seulement de comprendre et d'étudier, mais c'est aussi de pratiquer. De vivre ce que nous écoutons et ce que nous lisons. Ça c'est le fardeau de cette semaine, notre manière de vivre. Donc ce que nous voyons dans la parole doit nous affecter, doit nous toucher. Sinon ça reste des connaissances dans la tête. Et ça peut même nous rendre orgueilleux. Et ça n'a pas grande valeur. Donc, Esdras. Esdras, c'est un livre sur le retour du peuple d'Israël de la captivité. Mais Dieu avait fait une préparation, une grande préparation, pour que le retour puisse arriver. Je pense que la dernière fois, mardi soir, nous avons vu la préparation de Daniel. Comment Dieu a changé son régime.
Et
Daniel a vécu d'une certaine manière.
Daniel,
il s'est séparé de la viande et des boissons du roi. Et il a continué sa manière de prier. Il a comme son habitude. Donc, quand la crise est arrivée, Daniel n'a pas prié.
Daniel
il priait déjà. Et donc, la crise n'était qu'une occasion de vivre ce qu'il pratiquait. De vivre ce qu'il faisait. Et donc Daniel était préparé.
Daniel a
et à un certain moment, n'est-ce pas, il a pu parler avec le roi. D'abord avec le roi de Babylone,
Nebuchadnezzar.
Il y a beaucoup d'interactions entre Daniel et Nebuchadnezzar. Et on peut dire qu'à la fin, Nebuchadnezzar a reconnu le vrai Dieu. Ce n'est pas ce que Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar. Mais c'était sa manière de vivre. Et donc, Nebuchadnezzar a vu de ses propres yeux qui était Dieu. Il a même avoué, maintenant je sais. Que l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu des dieux, le Dieu des cieux et de la terre. Voyez, c'était à travers le témoignage, la vie de Daniel. Et c'était pareil avec Darius, le roi de Perse. Darius, n'est-ce pas, si vous... Bon, on n'a pas eu le temps de lire Daniel. Mais Darius, il savait que Daniel était différent.
Darius a deux décibels, Daniel a un tout bobo.
Darius ne voulait pas mettre à mort Daniel.
Darius me dit bien, yaou, Daniel.
Mais il a été trompé par ses propres satrapes, n'est-ce pas, ses conseillers. Qui l'ont trompé à faire un décret. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Quiconque prie quelqu'un d'autre, autre que le roi Darius pendant 32 jours, sera coupable. Et serait jeté dans les lions. Aux lions. Et Darius a signé le décret. Et puis on a espionné, n'est-ce pas? On a espionné Daniel et on l'a vu en train de prier son Dieu. Comme c'était son habitude. Et Darius, n'est-ce pas, était bouleversé. Il a cherché à... n'est-ce pas, à sauver Daniel. Il a essayé de chercher toutes sortes de moyens. Et finalement, ses satrapes lui ont dit, roi, tu ne peux pas changer ce que tu as décrété. Autrement, tu serais injuste. Tu irais contre la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut pas être changé. N'est-ce pas? Et donc, Darius a passé toute la nuit, une nuit blanche, sans dormir. Et puis, tôt le matin, il s'est réveillé. Il s'est approché de la... là où Daniel était avec les lions. Et il a crié, « Oh, Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a préservé ? Est-ce que... » Et Daniel a répondu, « Oui, il a dit, oui, c'est mon Dieu, n'est-ce pas ? Qui m'a sauvé, qui m'a préservé. »
Et Daniel,
de la bouche qui a fermé la bouche des lions. C'était pas ce que Daniel a dit, mais comment il a vécu. Qui a impressionné Darius. Et Darius a été, on peut dire qu'il a été, s'il n'a pas été sauvé, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais, n'est-ce pas, selon le Nouveau Testament, il est devenu, selon moi, il est devenu un frère. Il est devenu quelqu'un qui connaissait Dieu. Et puis, ça c'est le deuxième roi. Et puis maintenant, Cyrus, roi de Perse.
Cyrus, Ephiatolia.
Comment est-ce que Cyrus a pu donner un décret comme ça? Parce que Daniel se préparait.
Elle avait Daniel Jajiramdori.
Il étudiait Jérémie. Il a vu que la période de captivité, la fin de la période de captivité s'approchait.
70
ans. Et donc, il a commencé sans doute à parler, à s'approcher du roi Cyrus. Et c'est Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus. Dans le verset 1 du chapitre 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Mais comment? Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'était sans doute à travers, n'est-ce pas, l'instrument Daniel.
Daniel dit.
Et donc, voilà comment, n'est-ce pas, il y avait un vase qui se préparait. Et donc, Dieu a pu, maintenant, il a pu rappeler son peuple de la captivité à lui, à Jérusalem. Pour appartenir à Dieu lui-même. Et donc, ceci est aussi notre cas. Dieu veut nous préparer pour rentrer à Dieu lui-même, pour lui appartenir. Donc, nous avons lu le premier chapitre d'Esdras. N'est-ce pas? Comment le peuple s'est levé? Ils ont répondu au décret de Cyrus.
Cyrus veut se dédier à
arrangé par Dieu. Et il y avait, n'est-ce pas, il y avait les grands chefs de famille, les sacrificateurs et les lévites. qui se sont levés. Les grands chefs de famille, n'est-ce pas, dirigés par Zorobabel. De la tribu de Juda et de Benjamin. Et puis, bien sûr, les sacrificateurs de la famille d'Aaron. N'est-ce pas? Qui avait le sacerdoce. Et puis, les Lévites. Qui assistaient les sacrificateurs. Ils se sont levés pour répondre à Dieu. Et ils sont retournés à Jérusalem. Et la première chose qu'ils ont faite, c'était de rétablir l'autel. Donc ce soir, le message 7, c'est la restauration de l'autel.
Amen.
Notre consécration. Ça, c'est le titre de notre message ce soir. Donc, nous avons tous le message 7, n'est-ce pas? Amen. L'autel est le premier meuble dans notre expérience du tabernacle et du temple. Sans lequel nous ne pouvons pas être le témoignage du Seigneur. Et si vous vous souvenez du tabernacle, qui était le prédécesseur du temple, et si vous vous souvenez, bon, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas ici, mais en 2012, il y a 4 ans, bon, ça fait longtemps, nous avons eu une formation sur le tabernacle. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous en souvenez. Nous avons vu tous ces meubles, tous ces en détail. Mais ce soir, on n'a pas le temps. Mais l'autel est la première chose. Parce que si nous voulons appartenir au Seigneur, nous voulons être la maison de Dieu. Nous voulons être l'église à Lomé. Nous devons rétablir l'autel. L'autel, ce n'est pas un lieu d'adoration. Ce n'est pas... Parce que même ici à Lomé, on voit beaucoup d'hôtels.
La belle la fille est Lomé, mais pas, on s'en met plus guider.
Beaucoup de lieux d'adoration.
Souvent, tu peux guider.
Non, ce n'est pas un lieu, c'est pas un lieu physique. Ce n'est pas non plus un lieu là où je vais pour prier. Mais l'autel, c'est une question de notre cœur. De notre esprit. Est-ce que je suis pour Dieu? Est-ce que je veux être à Dieu? Je dois construire l'autel. Et je dois monter sur l'autel. Et je dois rester sur l'autel. L'autel, c'est quoi? L'autel est un portrait de la croix. Pas la croix physique. Donc, si vous avez une croix physique chez vous. Non, ça ce n'est pas l'hôtel. Non, ça c'est une image d'une croix. Mais ça, ça n'a aucune valeur. La croix, c'est, on peut dire, c'est l'événement, la réalité, la plus essentielle, la plus cruciale de l'univers. Parce que la croix sépare tout ce qui est à Dieu et tout ce qui n'est pas à Dieu. La croix met fin à tout ce qui n'est pas Dieu. Pour faire naître ce qui est Dieu. La croix crucifie. La croix termine. À la croix, on vient à sa fin. On n'est plus.
Vous
voyez? Et donc, la croix ferme la bouche de tout le monde. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions. Moi, je pense qu'il faut servir Dieu comme ça. Alors, je vais construire un édifice pour adorer Dieu. Et d'autres disent, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais construire quelque chose d'autre. Beaucoup d'opinions. Beaucoup de points de vue. Et beaucoup de raisonnements. Et beaucoup de confusion. Et c'est évident dans l'Ancien Testament. On construisait quelque chose à Bethel. On construisait quelque chose à Dan. On construisait quelque chose à Ephraïm. Tout au nom de Dieu. Mais pas de croix, pas d'autel. Mais la croix, l'autel, c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu vient pour mettre fin à tout ce qui n'est pas lui. Pour créer quelque chose de lui-même. Donc, à la croix, Dieu est venu en tant qu'un homme, un vase, un vrai vase, Dieu lui-même, mais un homme pour mourir. Mourir pour nos péchés. Oui, pour verser son sang. Mais mourir pour mettre fin à ce que nous sommes. Dieu lui-même, il a porté, il a pris notre nature. Il est même devenu nous-mêmes. Pourquoi ? Pour terminer ce que nous sommes. Pour que dans sa crucifixion, il puisse créer. Il puisse terminer notre vieil homme pour créer un nouvel homme. Et ce nouvel homme va satisfaire Dieu. Parce que ce nouvel homme, c'est Dieu lui-même, c'est
Christ.
Donc, nous, notre vieillesse, notre vieil homme n'a rien à voir. Avec ce que Dieu veut.
Vous
voyez, donc, réfléchissez, n'est-ce pas, à la manière dont Dieu a attendu des années, des siècles, n'est-ce pas, il a supporté, il a toléré
la nuit.
À partir de la Genèse jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Il a toléré, n'est-ce pas, l'homme avec toutes ses opinions, toutes ses tentatives d'adorer Dieu, mais avec la vieille nature. Et finalement, Dieu est venu lui-même. Donc, Galate dit, n'est-ce pas,
que
dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son fils, n'est-ce pas, né d'une femme, n'est-ce pas, pour venir, n'est-ce pas, mourir pour nous. Ça, c'est la croix. Donc, la croix a intervenu pour établir quelque chose. Et ça, c'est l'autel. Donc, pour retourner à Dieu de notre captivité, nous devons retourner à l'autel. Ça veut dire à la croix. Mais le problème, c'est que la croix, on ne l'aime pas. Mais on l'aime d'une certaine manière. N'est-ce pas? Parce que c'est là où Jésus est mort. Pour nous. Comme notre substitut. Donc, dans ce sens-là, nous aimons la croix. Oh Jésus, tu es mort pour moi.
Oh Jésus, pour être.
Tu vas pardonner. Tous mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Nous avons cette chanson, n'est-ce pas? Are you washed in the blood? I suppose que ça existe en français. Na 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 na. Voilà, une chanson merveilleuse, n'est-ce pas? Et nous la chantons. Oui, et c'est vraiment. Moi aussi, j'aime beaucoup cela. N'est-ce pas? Et bien sûr, cet aspect-là est très important et précieux. Mais nous ignorons l'autre aspect. Et ça, nous ne le chantons pas tellement souvent. Et ça, c'est que quand Jésus est mort, nous aussi, nous sommes morts avec lui. Ça, on ne le chante pas aussi fréquemment. Parce qu'on n'aime pas mourir. Ben oui, on est content que Jésus soit mort. Et voilà pourquoi je ne meurs pas. Je n'ai pas besoin de mourir. Ah oui, j'aurai la vie éternelle. Ça, tout le monde le veut. N'est-ce pas? Avant-hier, on est allé ailleurs. Et on a demandé à Delavé. Yeah, Delavé. Oh, oui.
Delavé.
Et on a demandé aux frères et aux sœurs.
Il y a ton avis, tu connais l'avion aussi.
Oui. Pourquoi avez-vous cru au Seigneur?
Oui, voilà.
Et je pense que la plupart des réponses. C'était parce que, oui, je veux la vie éternelle. N'est-ce pas? Et c'est vrai. Jean 3,16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Il a envoyé son Fils unique. Le monde que quiconque croit en lui ne périsse point, mais recevra la vie éternelle.
Amen.
Et voilà la promesse de Dieu.
Donc,
aucun doute, ça c'est vrai. Mais il y a aussi l'autre aspect. La vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, je dois mourir. Voyez le paradoxe chrétien dans la vie chrétienne. Mais nous on veut la vie éternelle, mais on ne veut pas mourir. Donc nous voulons la vie éternelle, n'est-ce pas, et rester tel que nous sommes. Voyez. Non, même dans l'histoire, n'est-ce pas? Il y a cette quête du Graal sacré. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le Graal. La coupe. Oui, la coupe que Jésus, apparemment, quand Jésus a célébré la table, sa table. Donc il y avait la coupe, n'est-ce pas? Et dans l'histoire, ou dans la légende, l'histoire de l'homme, surtout dans l'histoire européenne, on a toujours cherché cette coupe. Parce que apparemment, si vous buvez, si vous trouvez cette coupe, et si vous buvez de cette coupe, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire que vous ne mourrez pas. Oui, même dans les romans, dans les légendes anglaises, françaises, il y a ce fil de la quête de la coupe divine. Bon, peu importe, ça ce n'est pas la Bible, mais ça montre que l'homme cherche la vie éternelle. Il va même payer un grand prix. Alors il y a eu des guerres pour trouver cette coupe. Même l'homme là, il est prêt à mourir. Mais ça c'est son concept. N'est-ce pas? Il veut quelque chose de Dieu, mais pas selon Dieu lui-même. À ses propres termes,
le mauto rokuma,
il veut rester tel qu'il est. Donne-moi la vie éternelle. Et Dieu, dans sa grandeur, Dieu est tellement grand qu'il va sauver. Il va sauver quiconque croit en lui. Quiconque invoque son nom sera sauvé.
Et
ça c'est Dieu. N'est-ce pas? Dieu n'est pas avare. Il va vous sauver. Ça c'est la miséricorde de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu, nous exploitons la grandeur de Dieu. N'est-ce pas? Ah, nous avons Dieu. Nous sommes bénis. Nous pouvons vivre une bonne vie et nous aurons la vie éternelle. Ah Dieu, tu es tellement bon. Tu es tellement grâce, plein de grâce. Merci Dieu. Tu es pour moi. Et Dieu dira, oui, je suis pour toi, mais tu ne me connais pas. Je vais te donner, n'est-ce pas? Oui, je vais te donner certaines choses. Dieu est juste, n'est-ce pas? Il donne des choses aux justes et aux injustes. Même les injustes reçoivent des choses. Ils n'ont pas besoin de croire en Dieu. Ils vont vivre. Ils vont survivre. Ils vont même vivre mieux que nous. Voilà, ça c'est Dieu. Mais ceux qui veulent vraiment le connaître ne seront pas contents. Ils vont crier, Seigneur, il doit y avoir quelque chose de plus. Je ne suis pas satisfait de ma manière de vivre. Il y a quelque chose qui manque. Oh Seigneur, je suis désespéré. Parce que chaque fois que je veux te plaire, je veux vivre pour toi. Je n'arrive pas. Je chute. Oh Seigneur, pourquoi? C'est pas seulement une question. Oh Seigneur, ton sang est là, lave-moi. Maintenant je suis lavé. Et je continue comme avant. Oui, le sang est là. Mais le sang est là pour nous ramener au Seigneur. Pour nous ramener à la croix. Seigneur, il y a quelque chose qui est en moi qui doit être traité. Et ça, c'est l'autel. Amen. Donc, nous venons à l'autel. Tout le monde, n'est-ce pas? C'est chacun d'entre nous doit arriver à ça. Donc, tous les enfants d'Israël, d'un homme, sont venus pour rétablir l'autel. Pour reconnaître, Seigneur, c'est là où je suis mort. Je suis mort avec toi. Et donc, mon vieil homme est mort avec toi. N'est-ce pas comme Paul le dit? Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Mon ancienne manière de vivre a été crucifiée. Seigneur, je me donne à toi sur l'autel. Et je veux rester sur l'autel. Et c'est ça la consécration. La consécration, c'est une décision de se donner au Seigneur. De rester là où le Seigneur est mort. D'être terminé. Ma manière de vivre a été terminée. Sans la consécration. nous n'avons aucun moyen de suivre le Seigneur. Parce que nous allons, n'est-ce pas, nous allons retomber, nous allons essayer de plaire au Seigneur et nous allons chuter, échouer. Aucun moyen. Et même, il arrivera un moment où nous dirons, c'est inutile. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se découragent. Parce qu'ils arrivent, ils essayent. N'est-ce pas? Et ils n'arrivent pas à vaincre. Ou à se séparer. Ou à laisser, à se débarrasser de certaines choses. Alors, ils jettent les mains dans l'air et ils disent, c'est impossible. Je ne peux pas. Et donc, je continue. Je reprends mon ancienne manière de vivre. Et ça peut être aussi notre cas. Pourquoi est-ce que souvent, nous continuons à faire certaines choses? Mais nous avons été sauvés. Nous avons été, n'est-ce pas, quoi, rachetés. Nous avons fait un échange de maître. Pourquoi est-ce que nous suivons toujours l'ancien maître? Maintenant, nous avons Jésus comme notre maître. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Souvent, c'est parce que nous ne savons pas. Nous ne nous sommes pas consacrés. Nous ne nous sommes pas donnés au Seigneur. Nous avons peut-être fait des résolutions. Si j'ai une copine, n'est-ce pas, je suis dans un rapport qui n'est pas légitime. Pourquoi est-ce que c'est difficile de rompre? De rompre ce rapport. Si le Seigneur, si Jésus est notre maître. S'il est notre Seigneur, pourquoi pas rompre ce qui n'est pas de lui? Pourquoi est-ce que nous sommes tellement impuissants? Et nous ne rompons pas. Même nous sommes d'accord. Nous sommes chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Mais c'est seulement quelque chose de mental. Mais nous continuons. C'est comme si nous étions dans une situation là où nous ne pouvons pas nous empêcher. Nous sommes comme une feuille qui est emportée, n'est-ce pas, sur le courant du fleuve. Impossible de s'arrêter. Parce que nous ne nous sommes pas consacrés. Nous n'avons pas fait une consécration au Seigneur. Et pas seulement par des paroles. Parce que je sais que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes consacrés de cette manière. Mais ça demande quelque chose de plus. Un prix à payer. Ça veut dire qu'on se consacre, ce n'est pas seulement dire au Seigneur, Seigneur, je me consacre à toi. Mais c'est de rester sur la croix. Et de ne pas bouger. Parce que c'est là où le Seigneur, il s'est placé là-bas. Pour satisfaire la volonté du Père. N'est-ce pas? Si le Seigneur, s'il y avait quelqu'un qui pouvait, qui avait le droit de quitter la croix, c'était le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a obligé? Il aurait pu la quitter. Quand les gens, n'est-ce pas, autour de la croix, quand ils se moquaient,
oui.
Ils ont dit, ah, si toi tu es le Christ, descends et sauve-toi. Ah, il a sauvé d'autres, mais lui-même il ne peut pas se sauver. Regarde quel Dieu est-ce. Ah, il a sauvé d'autres, mais lui-même, il ne peut pas sauver. Il meurt. À ce moment-là, si vous étiez le Seigneur, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous feriez? Peut-être que, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas descendu de la croix? Juste pour montrer à tout le monde sa puissance. N'est-ce pas, il est Dieu. Vous pensez, vous dites que je ne peux pas me sauver? Je vais vous montrer. Je vais descendre. Et puis je vais remonter. Non, ça c'est. Ouais, Dieu aurait pu faire ça. Mais il n'a pas fait. Et d'un autre sens, il n'a pas pu le faire. Parce que c'était contre sa nature. Il n'est pas venu pour se sauver. Il est venu pour se donner. Au Père. Donc, en théorie, il aurait pu se sauver. Mais spirituellement, il n'a pas pu se sauver. Donc il y a même un cantique anglais qui dit lui-même il ne pouvait pas se sauver. That one, himself he could not save. He on the cross must die. Lui, il ne pouvait pas se sauver. Il devait mourir sur la croix. Il n'avait pas le choix. Tous ses choix ont été débarrassés. Il n'avait pas le droit des droits. Il n'avait pas de choix. Toute sa vie, tout ça, son destin a été planifié pour accomplir la volonté du Père. Voilà, ça c'est la consécration. Mais le problème avec nous, c'est que nous avons beaucoup de choix. Je choisis aujourd'hui de me donner au Seigneur. Je choisis de changer. Je choisis de lire la Bible. Nous sommes pleins de choix.
Mais le problème, c'est que aujourd'hui, nous choisissons. Demain, nous ne choisissons pas. Nous sommes des gens de choix. Ah, c'est mon choix. N'est-ce pas? Même parler avec des gens. N'est-ce pas? Vous prêchez l'évangile. Ils disent, j'ai mon choix. Je suis libre. Le libre arbitre, n'est-ce pas? Le libre arbitre. Free will. Ça, c'est une grande, quelque chose qui est très bon. Il y a beaucoup de. Non, j'ai la liberté d'accepter Dieu ou de rejeter Dieu. Oui. Dieu vous donne cette liberté parce que vous ne le connaissez pas. Mais quand vous le connaissez, vous rendez compte que vous n'avez pas le choix de choisir Dieu. Ça, c'est le problème avec l'homme. Il a beaucoup de liberté. En tant que chrétien même, nous sommes très très libre. Oh, même nous sommes plus libres que les païens. Nous avons beaucoup de choix. Je choisis de garder mon rapport avec quelqu'un. Qui es-tu pour me dire comment vivre ma vie? Qui es-tu pour me dire que je ne dois pas sortir avec une fille? Quoi? Je suis jeune. N'est-ce pas? Et j'ai une copine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai le choix. Je ne ferai pas, je ne pêcherai pas. Oui, vous avez le choix. Et personne ne peut vous empêcher. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas consacré. Vous n'êtes même pas, je ne sais pas même si vous êtes. Allez sur l'autel. Ou si vous êtes allé sur l'autel, vous l'avez quitté tôt. Voilà, et vous n'y revenez plus. Parce que c'est trop chaud. Sur l'autel, c'est très très chaud. Vous allez brûler. Ça, c'est l'endroit le plus chaud. Et c'est l'endroit le plus. C'est vraiment un endroit où vous allez être terminé. Tous les choix, tous vos choix seront terminés. Vous n'aurez plus de choix. Vous n'aurez plus de choix de sortir ici, d'aller là, de boire ceci, de boire ça, de manger ça, ceci, de manger ça, de regarder ceci, de regarder ça, de coucher avec ici, de coucher là. Vous voyez, tant de choix. Et tout au nom de notre faiblesse. Mais je suis faible. Je suis un homme dans la chair. N'est-ce pas? Avec des passions. Je ne peux pas, n'est-ce pas, m'empêcher. Oui, nous sommes dans la chair. Et cette vieille nature ne nous quittera jamais.
Enfin,
sauf quand le Seigneur reviendra.
pour changer notre corps. Oui, nous avons cette nature. Elle est avec nous. Mais est-ce que nous pouvons vivre avec cette nature sur la croix? C'est-à-dire cloué à la croix. Sur l'autel. Et il ne l'a pas quitté. Et ça, c'est la question ce soir. Est-ce que nous sommes prêts à rétablir l'autel? Ça, c'est la première chose. Ben, on ne peut même pas aller plus loin. On ne peut pas construire la maison de Dieu. Ça veut dire que toutes les choses que nous faisons dans la vie de l'Église, sans avoir résolu ça, toutes les autres choses ne veulent rien dire. Parce que nous pouvons les faire. Mais nous allons toujours nous égarer. Ce sera trop facile d'abandonner. Parce que nous avons toujours notre choix. Je choisis de prêcher l'évangile aujourd'hui. Mais demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, je ne pense même pas à le faire. Parce que je ne suis pas sur l'autel. Et donc, je vis ma vie selon mon choix. Ça, la maison de Dieu, l'église, ne peut jamais être construite comme ça. Donc, ils ont, le peuple d'Israël, il a établi l'autel.
Israël, tout quoi, autour, pour ça me plaît.
N'est-ce pas? Et on pourrait dire que, il aurait fallu d'abord construire le temple. Et puis, mettre l'autel dedans. Ça a plus de sens, n'est-ce pas? Vous construisez d'abord la coquille, enfin.
Et
puis vous mettez, n'est-ce pas, les meubles, même en construisant une maison. Vous construisez d'abord l'extérieur. Ensuite, vous la meublez, n'est-ce pas? Vous mettez tous les meubles dans les chambres, etc. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'homme fonctionne de l'extérieur à l'intérieur. Dieu fonctionne de l'intérieur à l'extérieur. Dieu, il veut un hôtel. Exposé. Vous vous rendez compte? L'hôtel, n'est-ce pas, était exposé. L'hôtel n'avait pas de couverture, n'avait pas de protection contre la pluie, contre la neige, contre même les attaques des adversaires. Vous rendez compte, ça aurait été facile de renverser l'hôtel. Les adversaires du peuple d'Israël, ils auraient pu facilement renverser l'hôtel. Quoi? Cette petite structure, n'est-ce pas, exposée. Sans protection. Mais ça, c'est Dieu. Dieu se fie à lui-même. Dieu a confiance en lui-même. Dieu n'a pas besoin d'être protégé.
Ah,
Les choses de Dieu n'ont pas besoin d'être protégées par l'homme, par les efforts de l'homme. L'œuvre de Dieu va rester et éternelle. Et donc, tout ce que nous donnons au Seigneur, notre consécration, notre position sur la croix, c'est ça la protection. Qu'est-ce qui protège le témoignage du Seigneur? Ce n'est pas nos connaissances. Ce n'est pas ce que nous avons appris. Ce n'est pas les belles chansons que nous avons chantées. N'est-ce pas? Ce n'est pas même les prières que nous avons prononcées. Quoique tout ça soit nécessaire. Mais qu'est-ce qui garde, qu'est-ce qui conserve l'œuvre de Dieu? C'est notre consécration. C'est la consécration à la croix. Notre position à la croix. Seigneur, je n'ai pas le choix. Parce que je suis terminé. Et donc, je n'ai pas le droit de me déplacer. Je reste sur la croix. Quand ça devient souffrant,
oui,
ça devient difficile. Seigneur, à ce moment-là, Seigneur, je veux te voir. Je veux rester là. Parce que je n'ai pas le choix. Tu es mon maître. Est-ce que voilà une prière qu'il est bon de prier? Quand la situation devient difficile, même impossible, je sais très bien. La tentation est dévorante. Et je parle des choses, n'est-ce pas, qui sont des choses qui nous affectent. Quand la boisson est là, même la Bible dit, le vin est moqueur. Quoi? Les boissons sont dévorantes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dévorant, n'est-ce pas? On veut résister. Mais on n'y résiste pas. Oui, à ce moment-là, la consécration arrive. Je me suis donné au Seigneur. J'ai un maître, j'appartiens à un maître. Alors, c'est lui qui m'a racheté. Et en me rachetant, il m'a terminé. Donc je fuis. Je fuis cette tentation. Je n'ose pas me trouver près de ça. Oui, parce que en moi-même, je suis faible. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force de résister. Donc, fuyez. Paul dit, n'est-ce pas, à Timothée, fuis.
Paul a dit à Timothée, si
les passions de jeunesse.
Le capim de drogo.
Donc la consécration. Ce n'est pas quelque chose de passif. Mais c'est quelque chose de très actif. C'est très vibrant. Ça demande quelque chose de ma part. Je dois fuir. Je ne dois pas me trouver là. Alors, même la consécration, c'est pas seulement dire au Seigneur, Seigneur, je me donne à toi. Mais c'est de faire quelque chose. De se débarrasser même de ce qui me tente. Donc chaque fois que l'homme dans la Bible s'est consacré au Seigneur, il y a eu quelque chose de pratique. N'est-ce pas?
Abraham,
quand il a invoqué le nom du Seigneur, il a construit un autel. Il s'est consacré à l'Éternel et il a offert des holocaustes, des sacrifices. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Quand les enfants d'Israël ont construit le veau d'or, Moïse a fait l'appel. Il a dit, à moi, tous ceux qui appartiennent à l'Éternel. Et les
Lévites
ont répondu à l'appel. Et Moïse leur a dit, prenez votre épée, chacun, et parcourez, n'est-ce pas, et tuez votre parent et votre proche. La consécration demande quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de passif. Ah oui, je partiens à l'Éternel. Bon voilà. Mais il faut prendre l'épée, n'est-ce pas, pour tuer. Ça veut dire se débarrasser de ce qui me frustre, ce qui m'empêche, ce qui me tente, ce qui me lie. Aucune miséricorde. La Bible est dure. En lisant ce passage, c'est difficile d'expliquer. C'était vraiment, tuer son proche, tuer son parent, tuer son frère. Oui, aujourd'hui, spirituellement, n'est-ce pas? Ça veut dire tuer, se débarrasser de ce qui me lie à mon ancien maître. Bon, même le Seigneur a dit que les violents, n'est-ce pas, prennent le royaume par la force. Oui, non, ce n'est pas par une épée physique. Donc, c'est pas que nous allons tuer ceux qui sont contre nous. Non. Okay. C'est notre bataille, notre combat n'est pas contre la chair et le sang.
Ouais,
mais vous voyez le principe, n'est-ce pas? Spirituellement, je dois faire quelque chose, ma consécration doit être réelle.
Ce
n'est pas quelque chose que je dis simplement. Et puis je rentre chez moi et j'oublie. Et je vis comme avant. Mais il y a quelque chose qui accompagne la consécration. Et donc, voilà ce que Dieu demande. Voilà ce que Dieu veut. Parce que lui, il est passé par ça. Il a pris ce chemin. Tout ce que le Seigneur nous demande, il a fait. Il ne nous demande rien qu'il n'a pas déjà fait. Beaucoup pensent, oh Seigneur, tu es trop dur. Toi, tu es un Dieu d'amour. Mais non, ça ce n'est pas un Dieu d'amour. Ça c'est un Dieu de justice, de sévérité. Un Dieu de colère. Ça
ce
n'est pas le Dieu que moi je veux adorer. Il y a des gens qui disent ça. N'est-ce pas? Bon, oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu sévère. Il est très très sévère. Il est le plus sévère, mais pas envers nous, envers lui-même. Il s'est traité sévèrement. N'est-ce pas? Donc, celui, n'est-ce pas, qui n'a pas épargné son fils. Ça veut dire que sacrifier son fils, ça veut dire que Dieu est le plus sévère. Nous plaignons. Nous gémissons. Seigneur, tu me demandes de renoncer à cette bouteille de vin, alcool. Non, mais même toi, tu buvais. Regardez, tu buvais au mariage de Cana. Au moins, tu étais là. Au mariage et on buvait. Alors pourquoi moi? Je ne peux pas boire. Non, parce que je vous dis, parce que j'entends ces choses-là. Oui, ça c'est vrai. Jésus, n'est-ce pas? Même il était, même on disait de lui, n'est-ce pas, ami. Ami de publicain. Oui, non, un gourmand. Un gourmand et un buveur, n'est-ce pas? Oui, un buveur. Le Seigneur, on l'appelait beaucoup de choses. Et donc, les chrétiens, n'est-ce pas, ils prennent ces choses pour se justifier. Et donc, voilà, ce sont des raisonnements. Mais moi je dirais que Dieu est tellement sévère que il ne s'est pas épargné. Il n'a pas épargné son fils. Ça veut dire qu'il ne s'est pas épargné. Parce que son fils faisait partie de lui. Quand il a sacrifié son fils, il s'est sacrifié. Et donc nous nous plaignons. Nous allons perdre quelque chose. Nous allons renoncer à quelque chose. Je ne l'aurai plus. Pauvre moi. Pauvre moi. Je suis misérable. Ça veut dire que nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas la croix du Seigneur. Donc, le peuple d'Israël, il est venu. N'est-ce pas? Se consacrer. Et aussi, et aussi poser les fondements du temple. C'est seulement après le rétablissement de l'autel que ils ont pu commencer à construire. Et les sacrificateurs et les Lévites étaient là. Les Lévites, tous ceux qui avaient 20 ans et plus. Donc, dans le temps qui reste, je voudrais parler un peu des Lévites. Où sont, qui sont les Lévites? Nous avons déjà parlé des Lévites. Ceux qui répondent, ceux qui se consacrent. Les jeunes. N'est-ce pas? 20 ans et plus. Donc, si nous avons 20 ans et plus. Mais même moins de 20 ans. N'est-ce pas? Mais ceux qui se consacrent et ceux qui sont sérieux. Ils veulent faire quelque chose. C'est pas par les paroles seulement, mais par l'action. Donc, ils ont été responsables de surveiller la maison de Dieu. La construction. Donc, aujourd'hui, où sont les Lévites? Si vous lisez, vous continuez à lire Esdras et Néhémie plus tard. Il est arrivé un moment où il manquait de Lévite. Dans Néhémie, Néhémie cherchait des Lévites. Mais il n'en avait pas. Alors, il y a un manque. Où sont les Lévites? Il faut avoir des Lévites. Mais où sont-ils? Où sont les Lévites qui peuvent se consacrer au Seigneur? Où sont les Lévites qui n'ont rien à voir avec le monde? Qui n'ont rien à voir avec les plaisirs du monde. Ils sont totalement consacrés les deux pieds dans le royaume du Seigneur. C'est pas qu'ils ont un pied ici et un pied là. Non, ils ne peuvent pas bouger comme ça. Les Lévites sont jeunes. Ils sont consacrés, ils sont prêts à combattre avec l'épée pour tuer ce qui la frustration en eux-mêmes, pas dans les autres, mais en eux-mêmes. Ils sont prêts à terminer ce qui n'est pas de Dieu pour servir Dieu. Voilà les Lévites, où sont-ils? N'est-ce pas? Maintenant, il doit y avoir des Lévites, ceux qui peuvent vraiment aller prêcher l'évangile, sortir dans d'autres localités pour porter l'évangile. Mais où sont-ils? N'est-ce pas? Ici à Lomé. N'est-ce pas? Une église de plus de 100 frères et sœurs. Les Lévites doivent se lever. Mais d'abord, les Lévites, toi, c'est pas seulement une question de se lever, mais de se consacrer, de se séparer du monde, de rompre des choses dans le monde, de rompre, de changer la manière de vivre pour se donner au Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur peut utiliser des frères et des sœurs comme ça. Ça, c'est le besoin. les Lévites, n'est-ce pas, ceux qui sont prêts à servir, ceux qui sont prêts à se donner, ceux qui sont prêts et ceux qui n'ont ne se soucie pas de position. Ah, on m'a pas encore fait lévite.
On m'a pas ouvert les yeux.
Non, les lévites se font, se manifestent.
Les yeux de Naruto.
D'abord par leur vie, leur manière de vivre. Vous vous séparez du monde. Vous devenez lévite. Vous êtes qualifié. Mais si vous mêlez avec le monde, vous touchez, n'est-ce pas, les choses que vous ne devez pas toucher. Vous voulez qu'on vous confie l'église? C'est une blague. Non, on ne peut pas confier les choses de Dieu comme ça. Il doit y avoir une manifestation, une preuve. La vie se manifeste. À ce moment-là, les Lévites se manifestent et se lèvent. Pour dire, j'appartiens à l'Éternel. Donc, où sont les Lévites? Ça c'est la question, ça c'est l'appel. Est-ce que les Lévites peuvent se donner au Seigneur? Pour assister, pour aider, pour collaborer avec les frères, avec les anciens, avec l'Église. Après, ça c'est le service des Lévites. Ils sont là pour aider, pour avancer. N'est-ce pas? Pour fonctionner. Pour toucher les choses sacrées. Pour l'avancement de l'Église. Donc, le Seigneur, il est très net. Dieu est très sévère.
Oui.
Dieu ne joue pas. Et il commence par l'autel. Ça, c'est la première chose. Donnons-nous au Seigneur. Séparons-nous de ce qu'il faut, ce que nous devons nous séparer. Nous le savons. Dans la lumière du Seigneur. Le Seigneur va nous montrer. Pour que nous puissions faire une purification. Résoudre ce qui doit être résolu. Je viens de lire, ou je suis en train de lire un livre sur des martyrs. Et il y a une histoire, je ne vous raconte pas toute l'histoire. Mais une sœur qui est venue en Afrique, au Congo. Et elle a été tuée, elle a été martyrisée.
Comment oui, Ama?
Mais son témoignage, ce qu'elle a écrit dans son journal, parce qu'elle savait plus ou moins ce qui allait arriver, elle a écrit. Et c'est ce qui m'a touché beaucoup. Ça a été déjà résolu. It was settled long ago. Ça a déjà été résolu. Autrement dit, ce qui va m'arriver, ça a déjà été résolu il y a longtemps. Ça veut dire que quand elle s'est donnée au Seigneur, sa mort ou ce qui lui allait arriver. C'était déjà conclu. Alors, il n'avait plus d'espace de questionner, de marchander avec le Seigneur. Seigneur, pas maintenant. Seigneur, pourquoi? Non. C'est trop tôt. Non. Elle s'est donnée et elle était claire que sa vie appartenait au Seigneur. Donc, si la Seigneur la prenait, c'était déjà résolu. Elle n'avait aucune plainte. Aucun murmure. Mais une fois pour toutes, ma vie appartient au Seigneur. Donc ça m'a touché. Est-ce que moi j'aurais la même chose à dire? Est-ce que c'est résolu? Même ce soir, est-ce que c'est résolu? Seigneur, quoi qu'il m'arrive, je suis sur l'autel. Ma vie appartient à toi. Mon choix est terminé. Je suis à toi.
Amen.
Amen. Amen.